jusqu'à 14h. Histoire et patrimoine de Normandie avec Julien Cruet sur France Bleu.
Qui étaient les francs-maçons? Ou plutôt, qui était franc-maçon? Question que l'on se pose cette semaine en compagnie d'un historien normand, spécialiste de ces sociétés secrètes nées au XVIIIe siècle. Cet historien, c'est Emmanuel Thiébaud. Il nous explique que l'on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est franc-maçon de son vivant et malgré son gré, mais c'est tout à fait possible de le faire après coup grâce aux archives une fois les personnes décédées. Dont acte à présent avec, par exemple, Désiré Le Hoc, ancien maire de Deauville, qui était franc-maçon. Emmanuel Thiébaud.
C'est une grande personne qui a d'ailleurs fait beaucoup pour la création de Deauville, de Trouville et de Deauville, fin 19e, début 20e. Et ça a été le fondateur de la loge L'Étoile des Deux Pôles à Trouville, qui est une loge dont il va être à la tête, donc dont il va être le vénérable pendant plusieurs années. Et il va avoir une importance énorme au sein de l'essor de la maçonnerie dans le Calvados. Et évidemment, il va avoir un rôle très important à Deauville. Et c'est un grand républicain, donc il meurt en 1919. Et en 1921, le préfet Elitas, hein, qu'on connaît, le stade Elitas...
Qui lui était franc-maçon ou pas Elitas?
Non, il n'était pas franc-maçon, je ne l'ai pas retrouvé. Mais il rend hommage à Désiré Le Hoc en écrivant « Le Hoc demeura toujours un démocrate et un républicain militant. Sa vie démontre ce que peut la volonté alliée à l'intelligence et à l'esprit d'entreprise. Il se fit lui-même et l'élevant avec lui, il fit Deauville. » Bel hommage quand même.
Il fit Deauville,
ce qui est vrai. Hein, c'est vraiment... il a fait partie de ces gens qui ont développé. On sait par exemple que à la tête des grands hôtels et casinos, que ce soit de Deauville ou Trouville, il y a eu beaucoup de francs-maçons qui souvent étaient des gens de Paris, qui étaient déjà initiés à Paris, qui vont venir et qui vont continuer à maçonner, comme on dit, grâce à cette loge, l'Étoile des Deux Pôles, qui existe à Trouville.
Qui peut-on citer également comme normands qui ont des rues à leur nom dans la région et qui était franc-maçon?
Quelqu'un qui est connu, je pense qu'il doit avoir un quai, je crois, c'est Fouquet, qui était les docks Fouquet, l'industriel qui avait les carrières des docks Fouquet à Fleury-sur-Orne, à Lisieux, Henri Chéron. Alors évidemment, on connaît Henri Chéron, alors à Lisieux encore plus, c'est une des rues principales. Et Henri Chéron a été ministre sous la Troisième République dans les années 20-30, pendant au moins, je sais pas, il a fait 30 ministères différents. C'était vraiment les inamovibles de ces cabinets qui tournaient sous la Troisième République. Et Henri Chéron, qui était radical, c'est quand au début de sa carrière, donc on est les années 20, se fait initier à la loge L'Humanité de Lisieux. Mais il dit, je veux bien être initié, mais je veux la plus grande discrétion, je ne veux pas que ça se sache. Et le lendemain de son initiation, tous les yeux étaient au courant. Donc, Henri Chéron a été, évidemment, on l'imagine très vexé, et il ne remettra plus jamais les pieds dans une loge maçonnique.
Et pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que ça se sache?
Eh bien, en fait, parce que il n'était pas fortuné. La fortune venait de son épouse, et son épouse était liée à la famille Martin. Et donc, vous imaginez bien, la famille Martin, c'est...
De Sainte-Thérèse.
De Sainte-Thérèse. Si sa belle famille avait appris qu'il était franc-maçon à l'époque où les francs-maçons étaient qualifiés de diable, il y a très fortes chances que la fortune de madame lui soit passée sous le nez. Donc, ceci explique cela. Donc, on ne retrouve plus jamais la trace d'Henri Chéron. Évidemment, vous avez Victor Le Sage, donc, qui a donné son nom à une école. René Lemierre, à Caen. Lui a eu un rôle très, très important aussi dans la franc-maçonnerie cannaise des années 30. Et aussi après-guerre pour la renaissance de la franc-maçonnerie après la Seconde Guerre mondiale. Un IME à Fleury-sur-Orne qui s'appelle l'IME André Baudreau. André Baudreau a été, pareil, une des grandes figures de la maçonnerie. Il était à Trouville, à la loge de Trouville, et c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important dans l'après-guerre, dans les années 50-60. Et peut-être que quand on a baptisé l'IME, on ne savait pas de toute façon qu'André Baudreau est très franc-maçon, mais à un moment donné, il faut comprendre que ce sont des valeurs humanistes que ces gens peuvent porter en eux, et qui permettent de comprendre aussi leur action sur le terrain. Alors aussi, on peut citer aussi, alors là, il a peut-être pas une rue, mais à Caen, vous pouvez aller vous recueillir sur sa tombe, c'est Georges Brumel. Alors là, on fait un bond en arrière.
On est au 19e siècle.
Georges Brumel, le célèbre dandy Brumel, donc est inhumé au cimetière protestant de Caen, c'est le petit cimetière qui jouxte l'université actuelle. Et en fait, lorsqu'il était en exil à Caen, il avait contracté beaucoup de dettes, il est venu en exil à Caen, et on a retrouvé son nom sur les registres de la loge Thémis, ce qui laisserait penser qu'il a fréquenté la loge, et apparemment, ce serait même des frères de la loge qui aient aidé avec la communauté protestante de Caen à payer sa sépulture pour pas qu'il finisse dans une fosse commune.
Tiens, tiens, la loge maçonnique Thémis, que vient de citer l'historien Manuel Thiébaut, eh bien, on connaît assez bien son histoire, on sait à quand elle remonte, et aussi où se trouvait autrefois son temple. À Caen, on en parle dans un instant.
doit s'endormir avec le soir. Et tous les fantômes d'hier nous donneront la lumière. Sauf du vent de la rivière.
Lilian Renaud, il faudra vivre.
Histoire et patrimoine de Normandie jusqu'à 14h avec Julien Cruet sur France Bleu.
Histoire d'une loge maçonnique cannaise. Suite de nos entretiens avec Emmanuel Thiébaud, historien normand, spécialiste de la franc-maçonnerie. Et comme promis, il nous éclaire à présent sur cette loge appelée Thémis. Emmanuel Thiébaud.
Thémis, c'est la déesse de la justice. Beaucoup de noms de loges maçonniques portent aussi des noms souvent liés soit à des vertus ou à des personnages de la mythologie qui peuvent représenter, comme on le voit ici avec Thémis, le symbole de la justice, de l'équité, de la droiture. Donc la Thémis, c'est la plus vieille loge de Caen. On retrouve sa trace en 1761. Et elle n'a jamais cessé de fonctionner depuis cette date-là, excepté pendant la période de l'occupation qu'on abordera à un autre moment, puisque là, évidemment, la maçonnerie est interdite.
Mais est-ce qu'il y a des temples maçons, par exemple la loge Thémis, est-ce qu'il y a un lieu? Vous dites que ça fait très longtemps qu'elle existe à Caen, est-ce que c'est localisable?
Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux origines de la maçonnerie, les loges sont peut-être souvent individuelles. C'est-à-dire que même dans une ville, lorsqu'il y a plusieurs loges, elles ont chacun leur local. Et il faut attendre, c'est principalement sous la monarchie de Juillet, où le Grand Orient incite les loges à se regrouper vraiment entre elles. Donc il y a déjà un premier regroupement qui est fait à la création du Grand Orient en 1773-74, dans ces années-là. Et sous la monarchie de Juillet, alors qu'il y a de moins en moins de loges, on les incite à se regrouper. Et lorsqu'elles renaissent sous la Troisième République, généralement, là il y a un local, on fédère en fait, les loges se fédèrent autour d'un local, ce qui permet de partager les frais.
Mais on ne construit pas un nouveau local.
Souvent, on essaie de trouver un local existant et on va l'adapter en fonction du décorum dont on a besoin pour créer un temple maçonnique.
Vous parlez de temple maçonnique, mais c'est pas comme une église ou comme un temple protestant. Ça n'a pas pignon sur rue, on peut pas le voir.
Pour qui sait regarder, on peut le voir. À Caen, dans la mesure où le temple a déménagé il y a un ou deux ans, on peut donner l'adresse de l'ancien temple, comme ça au moins il n'y a pas de risque. Si vous allez rue Neuf-Saint-Jean, vous allez au centre d'information et d'orientation de jeunesse. Lorsque vous mettez sur le trottoir d'en face avec le centre d'information devant vous, vous levez la tête, vous allez vous apercevoir qu'en fait, cette architecture, à un moment donné, fait un triangle avec un rond dedans, qui est un des symboles maçonniques, le triangle maçonnique. Le tout était de le voir et de le savoir.
Mais ça donne sur la rue.
Là. Et ça donnait sur la rue. Et en dessous, vous apercevrez une double porte à battants fermée, qui était l'entrée des locaux. La franc-maçonnerie s'est réunie rue Neuf-Saint-Jean, au moins pendant tout le 19e siècle et tout le 20e siècle.
Mais pourquoi ces mystères tout de même? Pourquoi est-ce que ça n'est pas plus visible? Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas plus facilement pourquoi une personne est franc-maçonne ou l'était? C'est ça la question.
C'est une bonne question. En fait, les francs-maçons essaient de se préserver du bruit du monde extérieur, de ce qu'ils appellent la vie profane, au sens étymologique, profanée devant le temple, pour pouvoir ainsi être à l'abri de tous ces bouleversements qui nous assaillent en permanence au quotidien à l'extérieur, pour se retrouver dans un endroit clos, calme, isolé, pour pouvoir réfléchir et penser plus sereinement. Absolument pas pour préparer un complot. On l'a vu sous la Troisième République, être à l'origine de lois qui vont permettre d'établir une République, certes, sauf que les lois, elles servent à tout le monde. Un complot, généralement, ça ne sert que de petits intérêts cachés et privés, donc on est quand même à l'inverse. C'est cette discrétion, plus que le secret, qui aussi résulte du fait que c'est une société initiatique, c'est-à-dire que lorsque vous entrez en maçonnerie, vous passez par un rite initiatique, on vous fait passer de votre vie profane, donc des ténèbres extérieures, à la lumière que les maçons essaient de vous apporter, mais avec cette priorité, c'est que avant de prétendre améliorer l'homme et la société, on va d'abord en maçonnerie vous apprendre à vous améliorer vous-même.
C'est religieux.
À la base, évidemment, puisque la maçonnerie est née au XVIIIe siècle, fin XVIIe, dans un environnement hyper religieux. Tous les rituels qui sont utilisés en maçonnerie peuvent avoir des références religieuses aux origines. Après, il y a eu une maçonnerie qui s'est scindée en deux, une maçonnerie laïque, ce qui va représenter le Grand Orient de France, et vous avez une maçonnerie déiste qui existe aujourd'hui encore, dans lesquelles vous devez croire en un dieu révélé pour faire partie de la loge. Donc il n'y a pas d'anti-religiosité obligatoire lorsque vous êtes franc-maçon, si bien que dans les symboles maçonniques, vous avez une sorte de syncrétisme religieux qui est récupéré pour différentes étapes d'initiation et continuer ainsi à gravir les échelons de la réflexion, de la pensée et de l'amélioration, encore une fois, plus individuelle avant de prétendre à ce qu'elle soit extériorisée.
Voilà, pour une définition toujours bien difficile à donner de la franc-maçonnerie. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter les livres de notre invité, Emmanuel Thiébaud, historien normand. Citons le musée secret de la franc-maçonnerie paru chez Grund, ou encore Qui sont les francs-maçons, paru cette fois chez Omnibus. Deux livres que l'on vous offre à vous, auditeurs de France Bleu Normandie. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur francebleu.fr. Vous tapez Normandie Calvados Horn. Il y a un formulaire avec un jeu concours, vous vous inscrivez, tirage au sort des gagnants de ces livres vendredi après-midi. France Bleu.